8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous les voisins et les voisines. En cette semaine consacrée aux droits des femmes dans le monde, on va parler de celles qui ont été effacées d'un pays, les femmes et les filles afghanes. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, elles sont privées de tout, d'éducation, d'emploi, d'accès aux lieux publics et bientôt de soins. C'est un Afghanistan sans afghanes. Pour la génération des jeunes filles, comment résister? Comment se projeter quand on n'a plus franchement d'avenir? Et que fait la communauté internationale face à cette guerre des talibans contre les femmes? On en parle avec vous qui nous écoutez et nos invités. Bonjour Soloane Chalvon-Fioretti.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter et réalisatrice de plusieurs documentaires sur l'Afghanistan que vous connaissez bien. Autrice du livre « La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane » chez Flammarion. Vous vous dites, et on en reparlera, que les Afghanes vivent en ce moment un confinement éternel, c'est ça?
Oui, tout à fait. Ouais, c'est particulièrement présent en ce moment dans le sud du pays. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ensemble.
Exactement. Et on parlera de cette guerre qui ne dit pas son nom. Dans le studio avec moi, bonjour Shakiba Davod.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédienne, activiste, féministe afghane, réfugiée en France depuis 15 ans, présidente de l'association Le Cercle Persan. Vous êtes également membre du collectif Le Bruit qui court. Et vous nous direz en quoi une résistance est peut-être possible, notamment sur les réseaux sociaux.
Bonjour à toutes vos auditeurs. Alors, je pense qu'il est important de savoir qu'une résistance, aujourd'hui en Afghanistan, de façon... Enfin, il existe différentes manières, mais la résistance des femmes a été reculée dans les maisons et sur les réseaux sociaux. C'est à travers des images que les femmes afghanes aujourd'hui s'expriment, notamment en écrivant des messages et en postant des vidéos. Et c'est ainsi qu'elles essaient de communiquer avec nous, le monde extérieur.
Et on va en parler.
Oui,
on
le besoin, leurs besoins. Tout à fait.
On en parlera avec vous dans plus de détails d'ici une quinzaine de minutes. On écoutera aussi le témoignage de Mursal Sayas, que vous connaissez. Elle est journaliste afghane et autrice du livre « Qui entendra nos cris ?» aux éditions de l'Observatoire. Notre reporter Charlie Dupio l'a rencontré à Paris. Bienvenue à vous.
8 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins.
Et bonjour.
Nous sommes là, nous sommes ensemble.
Et allô ?
Milliards de voisins, on est ensemble.
Alors avant de parler de la situation des femmes afghanes aujourd'hui, Soloane Chalvon-Fioretti, vous êtes allée vous en Afghanistan l'an dernier. Il faut peut-être nous dire, voilà, nous donner des images, mais à quoi ressemble aujourd'hui Kaboul et le pays?
Alors oui, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup de fois, en fait plusieurs fois depuis l'arrivée des talibans en Afghanistan. J'ai pu, parce qu'il faut bien comprendre que les talibans, la première année, ont été plutôt souples avec les journalistes étrangers. Donc votre question est tout à fait légitime, parce que paradoxalement, en fait, j'ai jamais autant vu le pays qu'avec les talibans la première année. Pourquoi ? Parce que en fait, faut pas oublier que ce pays est militairement un pays pacifié, quasiment pacifié, donc les résistances sont très peu nombreuses, donc ça n'a l'air de rien, mais en fait, moi qui couvre l'Afghanistan depuis 12 ans, avant ça, j'avais couvert la guerre.
Oui.
Et donc la guerre, elle vous empêche de vous déplacer. Et donc effectivement, là, du jour au lendemain, c'est un autre Afghanistan, parce que c'est un Afghanistan qui nous était fermé pour certaines provinces que je découvre, et en même temps, petit à petit, un Afghanistan transformé dans les villes. C'est-à-dire que là, ce qui vraiment choquerait n'importe qui a connu l'avant et l'après-Taliban, c'est ce à quoi ressemblent les villes, en fait. Les villes étaient, en Afghanistan, les principales villes et les bourgs, les gros bourgs provinciaux, étaient vraiment une vitrine de ce que t'es devenu la classe moyenne afghane. C'est un groupe social qui n'existait pas avant la classe moyenne.
Une vitrine économique.
Il y a 20 ans, en fait. Et en fait, maintenant les villes, ressemblent à la campagne. C'est-à-dire que d'abord il y a une absence des femmes qui est foudroyante à Kaboul, à Mazar, à Herat. Vraiment, là je parle des grandes villes. Donc les femmes ont vraiment très largement déserté l'espace public. Mmh. Dans les provinces, elles sont, quand il y en a, elles sont accompagnées d'un chaperon. À Kaboul, c'est pas le cas. On voit encore des filles seules hein, qui sont très courageusement dehors. Mais les accoutrements, les vêtements ont considérablement changé. Donc, elles portent des abayas, des robes longues. Elles sont dans des couleurs très, très sombres. La plupart, évidemment, se cachent le visage. Mmh. Et puis, même les hommes, en fait. Ce n'est pas que les femmes. Hein. Vous savez, les hommes aussi, ils ont changé. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, comme partout dans cette région du monde, il y avait une jeunesse qui pouvait s'habiller vraiment à la mode, j'ai envie de dire, à la mode mondialisée, même pas que occidentale, en fait. Mais mmh. les jeans, les manches courtes, etc. Et ça, on en voit quasiment plus. Les hommes portent surtout l'habit traditionnel. Et la barbe. Donc, en fait, c'est un pays qui... Et puis, surtout, maintenant, il y a des talibans partout. Mmh. Donc, il y a beaucoup moins de checkpoints, beaucoup moins d'armées régulières. On voit, en fait, les uniformes qui ont perduré, c'est ceux de la police qui fait le trafic, hein, parce que ça, les talibans les ont gardés. Mais sinon, vous voyez... En fait, des talibans, c'est-à-dire un look très différent hein, de ce qui préexistait avant dans les villes. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils faisaient si peur aux gens. C'est parce que les gens, en fait, n'avaient jamais vraiment vu de talibans avant. Et donc, on voit des talibans partout en armes qui marchent. Mais c'est beaucoup plus lugubre, en fait. C'est vraiment une ambiance que nous, on pourrait considérer comme sinistre. Eux, moi, j'ai plein d'amis à Kaboul qui disent « j'ai l'impression que le Helmand... » ou des régions qui sont très conservatrices, des régions du sud, que ces régions-là se sont installées à Kaboul. Mmh.
Des villes qui ressemblent aux campagnes, hein, c'est ce que vous dites. Alors, il faut aussi rappeler qu'il y a une vraie crise économique hein, et humanitaire. Hein, là-bas, selon l'ONU, 80% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Alors vous, Shakiba Davod, vous le disiez, hein, vous avez quitté l'Afghanistan il y a 15 ans. Ce n'est plus du tout le même pays aujourd'hui. Mais que vous racontent les contacts que vous avez là-bas? Je crois savoir que vous avez aussi encore de la famille, des cousines ou pas, sur la transformation de Kaboul.
Tout à fait, exactement. J'ai encore de la famille en Afghanistan. C'est des cousins, et des oncles, etc. Mais on n'arrive pas à les aider à venir en France parce qu'ils ne peuvent pas figurer dans la liste que le gouvernement français a préparé, comme quoi ils ne sont pas des gens engagés, c'est des simples personnes lambda. Et donc, selon les critères, apparemment, ils ne méritent pas d'être sauvés.
Il y a des critères.
Ouais. Des sélections, il faudrait être activiste, journaliste, des magistrats, etc. Enfin, des gens importants et éduqués avec des grands postes ou de la visibilité au sein de la société pour pouvoir, en fait, mériter cette aide humanitaire.
Mériter, hein, vous dites. Oui. Comme mérité. Si certains doivent le mérite et d'autres pas.
C'est
quoi.
Ça, parce que c'est ce qu'on a fait lors de l'opération Apagan. On a choisi un certain nombre de personnes qui devraient être sauvées, exfiltrées de l'Afghanistan, mais pas tout le monde. Mais par contre, les gens, la plupart des Afghans qui ne pouvaient pas supporter de vivre sous le gouvernement taliban ont décidé de quitter le pays et partir vers les pays limitrophes comme le Pakistan et l'Iran pour pouvoir trouver un moyen de survie. Voilà. Donc ça, ce qui concerne la famille, sinon j'échange pas mal avec des gens qui sont encore en Afghanistan, notamment avec des hommes universitaires qui sont aujourd'hui toujours à l'université, qui peuvent bénéficier et qui ont été diplômés des universités de Kaboul, par exemple, mais sous le gouvernement taliban. Et je leur pose, en fait, je leur demande cette question, quelles sensations ils ont alors que les femmes qui ont le même niveau qu'eux ne peuvent pas continuer à faire des études universitaires, obtenir leur diplôme, avoir l'accès à l'emploi. En fait, ces hommes-là, ils réagissent, ils me disent qu'ils comprennent très bien en fait, la sensation et les sentiments des femmes, en fait, leur indignation, etc. Mais malheureusement, malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Mmh. Parce que même s'ils souhaitent pour leur sœur, leur épouse ou les autres femmes afghanes d'avoir accès à l'éducation et aux études supérieures, en fait, ils ne peuvent rien faire contre les talibans parce que les talibans, justement, ils vont s'en prendre aux hommes. Si une femme afghane sort à l'extérieur, c'est son mari qui est puni. Si une femme afghane souhaite aller à l'université et continuer ses études, c'est encore à son père ou à sa famille qu'on s'en prend. Donc les hommes sont obligés de garder le silence, même si ça va à l'encontre, contre leurs idées à la base.
Silence pas forcément complice, mais silence malgré tout. Il faut quand même rappeler, Solène Chalmont-Fioretti, que depuis le retour au pouvoir des talibans, c'est ça, il y a eu 20 interdits contre les femmes et les fillettes, vous le dites, l'éducation.
Alors non seulement... Non seulement, pardon, excusez-moi, je vous ai interrompu. Oui. Non seulement, en fait, 20 interdits, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'autoroute des interdits est tellement sans fin qu'on ne prend même plus la peine de relayer ces interdits en Occident. D'abord parce que le monde est préoccupé par d'autres conflits et aussi parce qu'en fait, il y a tellement d'interdits qu'à un moment, ils ne sont même plus relayés. C'est-à-dire que les gens ne savent certainement pas par exemple, que je m'en suis rendu compte à l'occasion de notre dernier tournage. En fait, non seulement les parcs nationaux leur étaient interdits, mais par exemple, maintenant, approcher des Bouddhas, de la falaise des Bouddhas de Bamiyan, je dis bien approcher de la falaise des Bouddhas n'est pas autorisé aux Afghanes. Quand on dit que, par exemple, que l'éducation des filles est interdite à partir de l'âge de 12 ans. On ne sait même plus que dans le sud du pays, désormais à Kandahar, l'âge limite, c'est 10 ans et pas 12. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas, parce qu'il y a aussi des interdits qui sont compliqués. Il y a des interdits simples, tout le monde comprend, les femmes sont interdites des bains publics, mais il y a des interdits qui sont beaucoup plus pernicieux. Par exemple, en fait... Alors, par exemple, vous savez, en Afghanistan, c'est comme en France, c'est-à-dire que les hôpitaux ont besoin chaque année de publier en fait la liste des médecins dont ils auront besoin au sein de leur structure hospitalière. Donc, on va avoir besoin, comme chez nous ici, par exemple, à Mazar, d'avoir deux dentistes supplémentaires, etc. Évidemment, des gynécologues. Je rappelle que l'Afghanistan est un des trois pires pays au monde pour accoucher et d'ailleurs pour naître également. Eh bien, cette année, en 2023, les hôpitaux n'ont pas édicté. Et c'est comme s'ils n'avaient pas de besoin en gynécologue, sachant que les gynécologues sont évidemment des femmes. Donc en fait, aucun hôpital n'a produit de besoin en gynécologie ni en obstétrique dans tous les hôpitaux du pays. Vous voyez ce que ça veut dire, je veux dire. Alors que, et c'est là que c'est terrible, alors que le ministre de la Santé afghan est évidemment un taliban, mais qui est un médecin et qui, franchement, pour l'avoir interviewé, qui fait partie des talibans qui vous considèrent, c'est-à-dire qu'ils sont quand même des gens éduqués. Et ben même lui, il ne peut rien faire par rapport à ça. C'est-à-dire que même lui, il ne peut pas aller à l'encontre de l'idéologie extrêmement rigoriste qui provient de l'émir dans le sud du pays et qui, en fait, qui veut complètement effacer les femmes. Et donc, on va arriver à un point où, alors non seulement les médecins, les filles, en fait, ne peuvent pas poursuivre l'université, leurs études de médecine, mais en plus, on arrive à un point où, en fait, les structures de santé ne vont même plus pouvoir dire on aurait besoin d'une gynécologue ici. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on veut, évidemment, qu'il n'y ait pas de femmes qui travaillent à l'hôpital et donc qu'il n'y ait pas de femmes qui se fassent soigner. Donc, vous voyez, c'est ça qui est... C'est ça qui est malheureusement terrible, en fait, dans le récit actuel de ce qui se passe, de ce qui arrive pour les femmes d'Afghanistan. C'est-à-dire que même si on veut s'efforcer absolument d'entrevoir la possibilité d'un espoir, malheureusement, la course à l'effacement telle qu'elle est en ce moment imaginée dans le sud du pays, elle est pas terminée. Ouais, et donc, il est possible qu'on fasse le même call, qu'on ait la même conversation dans un an, toutes les trois, et que les petites filles n'aillent même plus à l'école. Vous voyez, malheureusement, c'est un cas, c'est probable, en fait.
Ouais, vous parlez d'effacement qui n'en finit pas de finir. On parlera aussi peut-être ou pas de la réaction suffisante de la communauté internationale face à cette situation. On se retrouve dans quelques instants après la rappeuse contestataire afghane Sunita Alizadeh. J'imagine que vous la connaissez également avec ce titre Putsch sur RFI.
سلام بینندگان عزیز که دمی لحظه ما رو تماشا میکنی شکر بیاندازه مهمان برنامه ای هفته از آقای لا
نداشتم و ترمزادم بچه ما که بعد باقای دروخوی فوز و خودتانم معرفی کنی جناب گل
سلام به احمدی از طرف رئیس جمهور بیان گذار سول چشم دشمن ها شبکو
باز شروع کردین جناب شما به تر زده در این برنامه ی زنده لطفا گز نزد قربان شکل کجتون یک سوار دارم عزیزتون کدوم چیزی یادتون است از وعده هایتون
کدوم وعده کدوم های چیزی نیست در سر تنها چیزی که یادم از شب جمعه با هم سر
انا نه قربان نه دو جوزیات که زیا به نام فقر با چیزی که به نظر میاد برای خاطره تعریف میکنه شوی بی بی گل بلا در گوش خر یا سخوندن چه منو از نادانان به خود پنو یا رب پنو بوچه 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 بعد زر بوچه 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 مغز سرش بوچه 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 میگو برش بوچه 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 بعد زر بوچه 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 انگام انتخابا بودین هوادار مردم تا رای دادیم به شما رهبران ره کن نانتون در روغم بود میگفتین شیرین گفا وعدت ملی سول مچون بلا 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 گفتین این میکنه آن میکنه ما شگفت و ایران اما وقت عمل همه خالی کردیم میدان تو رفتی غرب و رفت شرق و ما در واسط مانده با دولت رشوه خور فاسد مگب میزن و میمیکنه بین خود پاک از اعتماد بایی
آیندم رفت بفا
کنیم در جوش از تحمل کن بیاده بیاییم براز انتحاری کشم های امتلاسی های هم نداری فرزدان سلامت در خارج در نونیگرانی شان شاید نمرات کالج ولی جوانان ملت دردم در تقابل و اعضای بدنشون در کجا های کابل تو از این خطرات دور خطر سیکیوریتی بالا پس امنیت ما چی
در چیز بیبین نالا
بچه مبایی گفته کوچی تو بودو میدامه آب روی ما رو برد گب نمیفامه از لیدرهای ما همیز خرک و درک حرام خوری ها و گپای مفت لب سرک نشون با آوردن خاله همه ماما کاکا ساختا دولت پدر نارختشان والا همونا که حق داره خاطر بخور بخور برو با فردای وطن چی
حقی خدا بخور
این مره بخینا امید کرد از خلقت خدا مغز خر خورده هیچی نمیفامه با خدا اصلا مشکل از خود ما نست ملت عزیز دست رو دست منتظر تغییر شکفت انگیز تا کی ما باید خودت کنی فکر چاره قد نمای شکسته نمیرسانه جای ما را همه مسئول هستیم در ساخت افغانستان وطن ما آباد میکنیم نه یک شخص یا زمان ما دیگه میرم نه با خدا نمیشه اصلا فایده نداره هرچی که ما بگم از این گوش میره از یک دیگه بیرون میشه عجب داستان شد خدا حافظ
Dans 8 milliards de voisins de voisines, dans cette semaine consacrée aux droits des femmes dans le monde, on parle des femmes et des filles afghanes qui n'ont plus aucun droit dans le régime des talibans. Avec nos invités, la reporter Solène Chalvon-Fioriti, autrice du livre « La femme qui s'est éveillée, une histoire afghane » chez Flammarion, et Shakiba Davod, artiste activiste afghane réfugiée en France depuis 15 ans et membre du collectif « Le bruit qui court ». Là, on vient d'entendre la rappeuse afghane, hein, Sonita Alizadeh. Je crois savoir que dans son clip, elle simule un faux entretien avec un faux président afghan. La résistance fait aussi de l'extérieur, grâce aussi à des activistes, artistes comme vous, par les réseaux sociaux. C'est encore possible, ça, parce qu'on parlait du silence médiatique aussi. Qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'aujourd'hui, la résistance de la communauté afghane à l'étranger, c'est parti vers une sorte de caricature parce que il y a plusieurs, fronts de résistance qui se sont proclamés à l'étranger. Les anciens diplomates et l'homme d'État afghan qui se sont réfugiés dans les pays étrangers, comme en Turquie ou au Tadjikistan, en Iran, ils essayent de créer des coalitions mission pour s'unir contre les talibans, mais finalement, en fait, ils n'ont ni le soutien du peuple afghan, parce que le peuple afghan se sent trahi par eux, et ni le soutien véritable de la communauté internationale et des Nations Unies. En fait, on les écoute, on a vu très bien qu'il y a quelques temps, il y a eu encore une réunion à Doha pour parler, en fait, qui a été organisé avec l'aide des Nations Unies pour parler en fait de situation en Afghanistan, mais les talibans ne se sont pas présentés. Il y avait juste quelques représentants de société civile et des militants afghans qui sont partis à Doha juste pour parler avec le représentant des Nations Unies, mais finalement ça n'a rien changé sur la situation en Afghanistan.
D'accord, ouais. C'est un avis aussi que vous partagez, Solène Chalbon-Fioriti, et est-ce que donner la voix au-delà des journalistes comme vous à travers vos documentaires, ça peut aussi passer par les réseaux sociaux de l'intérieur ou de l'extérieur?
En fait, il y a un truc qui est clair, c'est que il faut faire attention, nous, à la face, aux mots qu'on utilise pour parler des Afghanes. Parce que, à force d'entendre dans la presse et dans les forums internationaux que les Afghanes sont muselés et invisibilisés, et là, je rejoins vraiment Shakiba, en fait, on leur rend vraiment pas service, hein, parce qu'on leur confisque une parole qu'en fait, elles prennent. Donc, elles sont pas invisibles, elles sont pas muselées. En fait, elles prennent la parole effectivement sur les réseaux. Et après, c'est à nous tous, en fait, de faire le taf et d'aller sur ces réseaux-là avec des traducteurs, de se faire traduire un contenu qui est souvent en persan, qui est souvent dans des applis qu'on n'utilise pas forcément nous ici, et participer à cette caisse de résonance, parce que sinon, effectivement, ce qu'on voit se produire, mais ce qui est fréquent en fait dans des pays qui se retrouvent avec de tels bouleversements et une diaspora qui se construit comme ça, enfin qui se renouvelle comme ça du jour au lendemain avec plein de gens qui sont divisés et puis qui sont traumatisés également, c'est qu'effectivement la parole elle est prise, elle est instrumentalisée, elle est politisée avec des groupes qui se retrouvent pas les uns les autres, etc. Et en fait on participe nous tous en se contentant du discours de la diaspora, on participe à plus entendre les gens qui sont sur place. Bien sûr, dans la diaspora il y a aussi des militantes, il y a des gens formidables, etc. Mais ce que je veux dire c'est que il y a un discours qui est très très politisé à l'extérieur qui est pas toujours celui des Afghanes. Et puis, on a un autre énorme problème, nous les journalistes, c'est que les talibans ne nous laissent plus travailler.
Oui, c'est ça.
On n'arrive plus à aller en Afghanistan. Donc ça, c'est la catastrophe. Parce qu'effectivement, moi, je vois très bien, la dernière fois, je ne pouvais pas parler à des femmes. Je n'avais même pas le droit de parler à des femmes. C'est-à-dire que si vous passez par les circuits talibans, vous avez maintenant des fixeurs qui vous surveillent absolument tout le temps. Alors, heureusement, on a des consoeurs sur place qui arrivent encore miraculeusement à se faire accepter, des consoeurs françaises d'ailleurs, hein, comme Oriane Zera, comme Élise Blanchard, voilà des gens qui arrivent sur place à encore un petit peu travailler, mais sinon nous les envoyés spéciaux ils nous brident et on ne peut plus du tout bosser. Donc là vraiment on se pose la question de en fait qui on va entendre, qui on peut entendre si on peut plus aller travailler là-bas, parler aux femmes, faire parler des gens qui sont anti-talibans. Dans ce cas-là en fait la seule parole qui nous parvient c'est effectivement celle des réseaux, donc elle est à beaucoup plus mettre en valeur. Et puis là, regardez, c'est moi je le note, normalement on nous appelle souvent, depuis 2 ans on nous appelle souvent le 8 mars pour parler des femmes afghanes. Pourquoi? Parce que c'est le seul pays au monde qui interdit, qui institutionnalise l'interdiction d'éducation pour les filles. Là aujourd'hui il y a beaucoup moins de radios qui nous appellent pour parler de ça. Ouais, c'est-à-dire que les afghanes sont en train d'être complètement oubliées dans le déferlement de nouvelles qui
oui, on le sait nous en tant que journaliste, on le sait en tant que journaliste, un conflit en chasse un autre, là c'est la guerre d'Ukraine, c'est le Proche-Orient et on oublie. D'où l'intérêt, vous dites, il faut écouter cette parole-là sur les réseaux, la traduire pour elle et pas prendre la parole à leur place, traduire les mots persans, etc. C'est ce que vous faites, vous aussi, Shakiba Davud, parce qu'il y a une vraie guerre de menée par les talibans contre la langue aussi persane.
Exactement. C'est ce que je fais, en fait, au début, quand j'utilisais les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram, Instagram. J'avais l'habitude de publier un petit statut en langue persan pour mes amis, les personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Mais au fur et à mesure, j'ai compris qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que maintenant, je vis en France. Il y a les réseaux sociaux deviennent de plus en plus intelligents grâce aux algorithmes. C'est-à-dire que même s'il y a une personne qui n'est pas francophone, grâce aux algorithmes, ils arrivent à traduire, appuyer sur un bouton et avoir le texte que j'ai écrit en anglais ou dans sa langue maternelle. Donc maintenant, quand je publie des choses qui concernent en fait à mon combat pour les femmes afghanes, je l'écris directement en français et c'est plus facile pour les algorithmes de le traduire en anglais ou en d'autres langues. Peut-être que c'est possible aussi versus persan ou farsi vers anglais ou d'autres langues. D'accord. Mais en tout cas, c'est un volet que j'utilise pas mal, que ce soit de la part de compte de mon association Le Cercle Persan ou que ce soit par mon compte personnel. Aujourd'hui, je publie de plus en plus en français.
Il y a les talibans de l'extérieur et puis il y a aussi les talibans de l'intérieur. On parle d'une recrudescence aussi de violence conjugale dans les familles, dans les foyers aussi, Solène Chalmont-Fioriti.
Oui, mais ça, c'est un effet mécanique, en fait, qui ressemble à ce qui arrive toujours dans le monde. C'est-à-dire que plus les gens sont précarisés et dans la misère, et là, vous l'avez dit, 80% des Afghans, en fait, sont en insécurité alimentaire. Donc, en passe, c'est que mécaniquement, quand vous avez beaucoup moins de gens qui travaillent, quand les femmes ont été à l'écrasante majorité privées de leur emploi, avec, c'est-à-dire privées publiques confondues. Je rappelle que les talibans, en fermant les salons de beauté, se tiraient en plus, ils se tirent en plus des balles économiques. Enfin, ils sont dans une telle puissance idéologique que la question économique en fait est moindre. Et en plus, ils interdisent la mendicité pour les femmes. Donc, en fait, tout ça crée un univers tellement précaire dans lequel, au sein des familles, pour revenir à la structure familiale, vous n'avez non seulement la crise économique vous attrape, vous rafle, mais en plus, les filles vont à l'école beaucoup moins tard à cause des interdictions. Donc, c'est vrai que les familles se retrouvent aussi dans des situations des situations de violence exacerbée par le fait que le foyer est de plus en plus précaire. Violence exacerbée aussi parce que pourquoi garder votre fille chez vous, alors qu'en Afghanistan, on sait qu'il y a des transactions financières qui s'opèrent au moment des mariages, en fait. Ouais. Et donc, où marier les jeunes filles plus tôt fait sens dans beaucoup de familles, puisque les garder à la maison, c'est une charge supplémentaire avec beaucoup moins... Ça coûte plus cher et puis on investit beaucoup moins parce qu'on sait que la jeune fille en fait ne va certainement pas travailler ni faire d'études, alors que bon, et encore là je vous parle des gens dans les villes parce que les études c'était vraiment pas du tout
dans les campagnes,
quelque chose qui s'était démocratisé pour les filles des campagnes. Mais là effectivement dans le calcul, si je peux parler de la sorte, en fait dans le calcul vous n'avez plus intérêt à garder les filles à la maison aussi longtemps qu'avant. Donc toutes ces violences effectivement, c'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'en fait c'est vraiment systémique. Le problème c'est pas du tout que les talibans, c'est les talibans, l'arrivée des talibans, une crise économique qui leur préexistait très largement, une société qui devient de plus en plus machiste et misogyne à mesure que les prêches dans les mosquées ont changé. On voit bien que de toute façon l'offre d'un monde plus démocratique, plus ouvert, occidental, n'a pas du tout tenu ses promesses et a même abandonné à leur sort des millions d'Afghans. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui crée un environnement de violence. Et cette violence, elle se referme toujours sur les femmes. Et ça, c'est vrai que c'est... Et pas que les femmes, d'ailleurs, les petites filles aussi. On a tendance à l'oublier.
Oui.
Tout à fait.
On n'a pas forcément de chiffres, mais peut-être que vous avez des retours de témoignages ou pas, où on parle aussi de beaucoup de suicide aussi chez les femmes, chez les fillettes qui ne veulent pas forcément être condamnées à ce mariage forcé ou autre. Je ne sais pas si on a des chiffres ou pas, mais c'est vrai qu'on en parle.
Non, en fait, les UN disent que entre 70 et 80% des suicides en Afghanistan aujourd'hui sont des suicides de femmes. Sachant qu'en plus, dans la culture afghane, comme le sait bien mieux Shakiba que moi, on ne crie pas sur tous les toits que sa fille s'est suicidée. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait pas. C'est totalement tabou.
Et la question de l'honneur.
Donc en plus, on n'a pas accès... Crimes d'honneur. Et puis on n'a pas du tout accès, on n'a pas accès aux chiffres officiels, mais ça peut tout à fait être davantage. Et puis là encore, c'est, ça suffit pas de dire les suicides augmentent, c'est aussi les suicides augmentent parce que bien sûr, enfin, il faut imaginer ces millions de filles des villes qui se retrouvent littéralement mises en cage, mais sans perspective d'avenir. En fait, c'est même pas vraiment le fait de devoir rester chez soi. Elles restaient déjà beaucoup chez elles, les Afghanes, mais aucune perspective d'avenir. Et puis un accès aux médicaments, au marché noir, aux antioxydantiques, aux antidépresseurs, qui est tellement large et puis qui est tellement répandu dans les familles afghanes, parce que n'oublions pas, ces gens ont 40 ans de guerre derrière eux, donc les hommes aussi sont très fragiles.
Je vous propose d'écouter le témoignage de Mursal Sayas, cette journaliste activiste afghane de 28 ans, s'est exilée en France en 2021. Elle a obtenu le statut de réfugiée politique. Elle publie « Qui entendra nos cris ?». C'est aux éditions L'Observatoire, un ouvrage dans lequel elle raconte les trajectoires de 10 femmes afghanes, dont le sien. Elle se livre au micro de notre reporter Charlie Dupio.
I was married when I was a student and I had 19 years old.
J'ai été mariée alors que j'étais encore étudiante, j'avais 19 ans. Avant l'université, j'avais commencé à travailler comme journaliste présentatrice au sein de Nour TV, qui est une chaîne en persan. Mais un an après nos fiançailles, mon fiancé m'a demandé d'arrêter de travailler, parce qu'il ne voulait pas que je travaille dans les médias. Il ne souhaitait pas que ses amis, leur famille me voient à la télé, et ça nuisait à son honneur que sa femme apparaisse comme ça en public. Donc, eh bien, j'ai arrêté. Et puis, quand j'ai fini l'université, début 2016, j'ai commencé à chercher un autre emploi. J'ai étudié le droit et je me suis spécialisée dans le droit de la défense. Mais il ne m'a pas autorisée à devenir avocate. Il disait que le système était corrompu et qu'il ne voulait pas que je participe à cela. Alors, j'ai commencé à travailler pour la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan en 2017. J'ai fini par réussir à le convaincre de me laisser intégrer cette commission, mais avec beaucoup de conditions. Je n'avais pas le droit de voyager ni de me rendre dans les tribunaux. Je ne pouvais aller nulle part, en fait. Je devais juste rester au bureau. C'était tout ce que je pouvais faire. J'ai décidé de le quitter et de demander le divorce après 5 ans de vie commune. Nous avions 2 enfants, un garçon et une fille.
Et alors, comment ça s'est passé pour vous au tribunal quand vous avez lancé cette procédure de divorce ?
It is horrible.
C'était horrible. Et pourtant, j'étais éduquée, je venais d'une famille privilégiée. J'étais moi-même avocate. Je savais ce que je faisais et je travaillais à l'époque pour la Commission des droits de l'homme comme défenseur des droits des femmes. Mais malgré tout cela, la première chose que m'a demandé le juge, je m'en souviendrai toujours, c'était « Vous partez parce que vous aimez quelqu'un d'autre et vous voulez vous marier avec cette personne ? En tout cas, vous allez le regretter. Votre mari est un homme bien. Restez avec lui. » Et là, comme si le ciel m'était tombé sur la tête, je me suis dit intérieurement « D'accord, vous avez entendu ce que mon avocate a raconté et pourtant vous m'accusez. Vous êtes le juge et vous m'accusez ? »
Et vous avez fini par obtenir le divorce. Au bout de combien de temps et qu'est-ce que ça vous a fait ?
Cela a pris 2 ans. Et même au dernier moment, la juge, c'était une femme cette fois, m'a demandé de renoncer. Elle m'a dit « Sacrifiez-vous pour vos enfants ? Êtes-vous vraiment une mère ? Comment pouvez-vous dire que vous êtes une mère ?» Finalement, je n'ai pas abandonné. J'ai réussi à divorcer. C'était quelques jours avant l'arrivée au pouvoir des talibans.
Vous avez travaillé à la Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan, à Kaboul. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail ?
J'ai commencé mon travail dans cette commission au sein de la section qui s'occupe de la protection des droits des femmes. On devait aider les femmes victimes de violences. Cette expérience a vraiment changé ma vie. C'est difficile de croire que chaque jour, on avait 25, 30, 35 femmes qui venaient jusqu'à nous pour nous demander de les aider. La plupart avaient été battues, torturées physiquement. Chaque jour, je voyais des femmes qui venaient avec les mains brisées, le visage plein de sang ou qui avaient été victimes de violences sexuelles.
Donc votre travail, c'était de recueillir le témoignage de ces femmes victimes de violences, toutes qui venaient vous voir, et ensuite de lancer des procédures judiciaires pour elles ?
Oui, exactement. On était censé les écouter et noter toute la chronologie des événements sur des formulaires spéciaux. On les accompagnait aussi tout au long de la procédure judiciaire. On les mettait en contact avec un avocat et on les conseillait. On suivait leur dossier jusqu'à la décision judiciaire. C'était ça notre tâche. En tout cas, même avant les talibans, la situation n'était pas juste pour les femmes. Alors qu'en est-il maintenant ? Elles ont été laissées dans l'obscurité totale.
Les talibans sont donc revenus au pouvoir en Afghanistan en août 2021. Et vous, vous avez pu quitter le pays. Comment vous avez fait ?
Oui, je suis partie 2-3 jours après la prise de Kaboul. Je suis partie comme les autres en passant par l'aéroport de Kaboul.
Parce que vous saviez que vous étiez en danger ?
Oui, bien sûr. Quelques jours plus tôt, on avait reçu une lettre des talibans qui nous menaçaient. Sur la liste, il y avait mon nom à côté de ceux d'autres collègues. Pour moi, c'était très difficile. Je courais un risque car je prenais ouvertement la parole contre les talibans. J'enseignais les droits de l'homme et aux yeux des talibans, les gens qui parlent de droits de l'homme ne sont pas de vrais musulmans. Il faut les tuer.
Et vous avez dû laisser, vous l'écrivez, votre famille et notamment vos deux enfants.
Quand je suis partie, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce qui allait arriver. Je ne savais pas si les talibans seraient là pour 1 an, 2 ans. J'ai pris ma décision en étant sous le choc. Quand je suis arrivée ici en France, les gens me disaient « Ça va venir, tu vas apprendre la langue et dans 1 an, la vie sera facile ». Et quand il disait « dans 1 an », j'étais choquée. Je me disais « qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je peux survivre 1 an dans ce pays, loin de mes enfants ?»
Maintenant, je réalise que cela fera bientôt 3 ans
et nous avons survécu. Et c'est un véritable exil car je ne peux pas rentrer au pays. J'essaie de parler tous les jours à mes parents et à mes enfants. Mes enfants vivent avec leur père.
Ils ont quel âge maintenant ?
Mon fils a 7 ans et ma fille a, elle, 5 ans. Depuis que je suis partie, j'ai l'impression de vivre une vie parallèle. Et je porte aussi la souffrance de toutes les femmes qui sont restées là-bas en Afghanistan. Quand je marche dans la rue ici en France et que je vois des femmes parler et rire, des femmes que personne ne force à faire quoi que ce soit, cela me fait du mal. Parce que je pense à la situation des femmes dans mon pays, en Afghanistan. Elles aussi méritent cela. Pourquoi elles n'y auraient pas droit ? Chaque jour, je me réveille avec cette souffrance dans mon cœur.
Le témoignage de Mansal Lassaya, ce micro de Charlie Dupio, Chaki Badavod. Que vous inspire son histoire qui forcément doit faire écho à la vôtre? Je rappelle que vous avez dû quitter l'Afghanistan il y a 15 ans. Menacée pourquoi d'ailleurs? Pourquoi vous avez dû fuir?
Alors j'aimerais saluer le courage de Mansal Sayas parce qu'elle a survécu d'une tragédie. Déjà quitter l'Afghanistan dans cette situation.
Et laisser ses enfants là-bas.
Laisser ses enfants là-bas et puis voilà, elle continue à survivre ici même si elle pensait ne pas pouvoir survivre même 1 an.
Et vous alors? Comment ça s'est passé?
J'ai quitté l'Afghanistan en fait pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'étais comédienne de théâtre dans la troupe de théâtre AFTA fondée par Ariane Mouchkine en 2005, le Théâtre du Soleil. Mais une fois que on a joué la pièce de Tartuffe, Tartuffe de Molière à Kaboul, on a commencé à recevoir des messages et des menaces de la part des talibans, des extrémistes, etc. Au début, on ne l'a pas pris au sérieux. Une de nos collègues afghanes qui venait d'intégrer la troupe, elle a été kidnappée par ses cousins. Et du jour au lendemain, elle a disparu. Elle n'est pas venue en répétition. Et on s'est dit que peut-être le théâtre ne lui est pas plu. Sauf que, au bout de 2 mois, on a eu des nouvelles. La police criminelle est venue nous voir et, en nous disant que, ils ont trouvé un corps décapité dans une puits et il s'agissait de notre collègue. Ils étaient là pour enquêter sur sa mort et on était juste choqués. Mais en 2009, j'ai décidé de m'installer avec un des comédiens de la troupe, et ce qui n'était pas vraiment acceptable par sa famille et par ma famille. Donc, on était obligé de quitter le pays et venir nous installer en France pour continuer à faire du théâtre.
Ouais, vous le dites, d'ailleurs, Solène Chalvon-Suriti, les talibans ont peur des femmes et surtout des femmes éduquées, des femmes de culture aussi.
Oui, alors, quelque chose qui est presque... En fait, si c'était pas terrible, ce serait cocasse parce que Je me souviens du jour où ils ont interdit, ils ont fermé tous les salons de beauté du pays, des salons qui se comptent par dizaines de milliers sur le sol afghan et qui très souvent nourrissent des familles entières à travers les esthéticiennes. En fait, ils avaient déployé devant les salons de beauté quasiment des blindés, quoi. J'exagère à peine, c'est-à-dire des pick-up avec des hommes en armes. Et ça pouvait vraiment faire penser à un déploiement sécuritaire similaire à ce qu'ils déploient sur des craintes d'attentats, quoi. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes déploiements extrêmement violents qui se déploient sur des manifestations de femmes qui, en général, franchement, rassemblent une poignée de femmes.
Mais il y en a encore des manifestations, il y en a encore, c'est possible, il y en a encore des manifestations.
Oui, ouais. il y en a, c'est simplement que, encore une fois, elles ne sont pas relayées, c'est des filles qui écrivent des messages sur des murs, c'est des femmes qui se retrouvent entre elles et qui tout de suite après se dispatchent et se cachent, parce qu'en fait, les talibans, là encore, c'est très intéressant, évidemment que la résistance au sens large en Afghanistan aujourd'hui, si on parle des femmes, c'est beaucoup plus les milliers d'écoles clandestines continuent de former des filles en dépit des interdits. C'est beaucoup plus ça, d'une certaine manière, qu'une résistance de quelques poignées de femmes qui marchent dans la rue. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est les femmes, en fait, qui l'amènent.
Ouais, qui arrivent à détourner les lois.
C'est les femmes qui l'amènent. Et c'est vraiment les... Et en fait, les talibans n'avaient pas du tout anticipé ça, puisque d'ailleurs, au début, ils les ont laissés faire. Et qu'en fait, ces manifestations sont devenues réprimées dans une violence continue et au point où même, ils se sont mis à emprisonner l'année dernière des militantes féministes. Ce qui ne se fait pas du tout non plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi sur les talibans, ce qui ne se fait pas non plus du tout dans la culture talibane où vraiment d'enfermer des filles à l'écart de leur famille, etc. C'est extrêmement controversé, ça ne sert pas à leurs intérêts. C'est juste pour vous montrer qu'ils sont terrifiés, ils sont interdits devant effectivement des femmes qui crient, parce que maintenant ils ont très bien compris la puissance de résonance des réseaux sociaux. Ils ont compris que les femmes ne se taisaient pas, il suffisait pas de les réprimer pour qu'elles se taisent, et c'est effectivement une des raisons pour lesquelles, vous savez, tout le monde s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'ils ferment les salons de beauté, parce que les salons de beauté c'est pas du tout forcément des femmes éduquées, mais c'est le fait que
c'est au-delà de salons de beauté classiques en fait
Exactement, c'est-à-dire que c'est des refuges où les femmes expriment une certaine forme de liberté qui leur est insupportable. Et donc, d'ailleurs, vous noterez que les talibans n'interdisent pas l'éducation, parce qu'en fait, vous pouvez vous éduquer chez vous, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez regarder la télévision, où il y a des programmes éducatifs. Parce que là encore, les médias afghans se sont emparés quand même de cette question pour essayer vraiment de sauver de l'ignorance des millions de jeunes filles. Mais en fait, les talibans ne veulent pas qu'elles sortent. C'est l'extérieur.
Oui, c'est ça, l'effacement public.
Vous voyez, c'est l'extérieur qui vous est interdit. C'est pas l'éducation, c'est l'école.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais que fait ou que ne fait pas assez la communauté internationale quand même ? Parce que ça fait plus de deux ans et demi que ça dure. Est-ce qu'il faut discuter plus avec les talibans ? Est-ce qu'il faut dialoguer avec les talibans ? Shakiba Davod.
Au début, on pensait que les talibans ne vont pas perdurer. On pensait qu'au bout de un ou deux ans, toutes les technocrates, bureaucrates sont partis, ils n'arrivent pas à survivre. Mais quand même, je pense que grâce à quelques alliés comme le Pakistan, la Russie, la République islamique de l'Iran, qui font partie de nos voisins, à la fois, c'est eux qui ont mis à notre pays, qui ont assisté en fait à cette péril. Ils arrivent à continuer à survivre. Mais je pense que ça prendra encore un peu de temps, mais j'aimerais bien attirer l'attention de la communauté internationale aux femmes afghanes qui ont quitté le pays aussi. C'est-à-dire beaucoup de femmes avec leur famille ou toutes seules ont quitté l'Afghanistan et qui sont parties au Pakistan ou en Iran. Aujourd'hui, le gouvernement pakistanais expulse pas mal les Afghans vers l'Afghanistan. Il faut être conscient ce qui les attend en Afghanistan. C'est pour ça que on a entendu parler de beaucoup de suicides des femmes qui étaient au Pakistan parce qu'elles ne voulaient pas retourner en Afghanistan. Il n'y a plus rien. Les femmes qui sont en Iran, pareil. Le gouvernement iranien abuse aussi de cette situation parce que les femmes afghanes qui partent en Iran, ils souhaitent souvent rejoindre leur famille, leur mari avec le programme de regroupement familial à l'étranger dans les pays occidentaux. Donc, elles sont un peu en mode escale et attente en Iran, sauf que malheureusement, il y a un système de trafic ou de prostitution qui s'est installé. Ouais. On utilise les femmes afghanes. C'est le gouvernement des Mollahs qui profite de cette situation. Et j'aimerais aussi, je sais que c'est beaucoup de bavardage, j'aimerais attirer votre attention à la situation des femmes afghanes qui arrivent en France par le regroupement familial. Grâce à ce que je fais en tant qu'activiste ou interprète, je suis amenée à parler ou à rencontrer beaucoup de femmes afghanes. Souvent, c'est des femmes qui n'ont pas beaucoup de niveau élevé d'études ou éducation scolaire. Elles arrivent avec les enfants ou sans les enfants, mais dès leur première année d'arrivée en France, elles tombent enceintes. Donc, elles sont condamnées à être isolées, à rester à la maison, alors que leur mari a un travail ou une vie sociale, et qui fait que, en fait, les femmes afghanes, même si elles arrivent en France, elles sont encore isolées. Elles n'apprennent pas la langue française. Bien sûr, elles n'entrent pas dans la société. Il y a une rupture dans leur intégration.
Ouais. Le mot de la fin, très rapidement, il nous reste une minute. Solène Chalvon-Fioriti, la communauté internationale. Ouais, je sais. La France, qu'est-ce qu'elle peut faire
mieux. En une minute. Ce qui est certain, c'est que là, on a déjà largement abordé, Shakiba, la question des visas. La question des visas, elle est centrale parce que, en fait, ouvrir les visas davantage aux femmes en Iran et au Pakistan, c'est permettre à cette génération éduquée que nous avons largement formée en Afghanistan à travers l'industrie du développement, c'est permettre à cette génération de ne pas se perdre. Il y a plein de filles qui sont bac 3, bac 4, bac plus 5. Je veux dire, elles peuvent avoir des diplômes, on peut régénérer des savoirs et leur permettre, le jour où les talibans seront ou différents ou partis, de revenir dans leur pays et de former leurs sœurs. Donc ça, c'est quand même pas la mer à boire puisqu'il s'agit de quelques femmes seulement, dans la mesure où elles n'ont pas le droit de voyager. Faisons au moins cet effort de diplomatie féministe pour les femmes afghanes.
Je voudrais aussi dire un petit mot pour la fin. L'Amnesty internationale ou l'Amnesty France a lancé une campagne pour demander des visas pour les femmes afghanes. Nous sommes aujourd'hui à 90 000 signatures.
Il y a une pétition sur le site d'Amnesty internationale.
Tout à fait, exactement. Ouais. Et j'invite tous les auditeurs d'aller se rendre sur le site d'Amnesty internationale et signer cette pétition pour pouvoir vraiment faire un acte concret à aider les femmes afghanes à obtenir des visas et venir en France être protégée.
Vous avez raison, le message est bien passé. Merci beaucoup Shakiba Davod d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Solène Chalvon-Fioriti.
Merci
à très bientôt. Merci. Allez, on se quitte avec Sami Galbi, c'est Dakshi Annie sur RFI.
We'll be right back.
Samy Galbi, un titre à retrouver sur la playlist de RFI, 8 milliards de voisins et de voisines, c'est fini. Merci à toute l'équipe, Romain Dubrac, Juliette Brault, Delphine Cachin et Tom Malky. On se retrouve demain à la même heure. Comment faire pour que les filles soient plus nombreuses dans les filières mathématiques et scientifiques? Comment finir avec les clichés sexistes comme quoi seuls les garçons auraient la bosse des maths? Si vous êtes concernés par le sujet, on attend vos témoignages. 33 7 64 45 51 41. Belle écoute et belle journée à l'écoute de RFI. À demain.